Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Sujet très sérieux aujourd'hui dans Asialogie, chères auditrices et auditeurs. Nous allons aborder la spécificité de la psychiatrie en Chine, en Corée et au Japon.
Ah oui, gros sujet.
Quel héritage historique, quel regard sociétaux et quelles particularités comparées avec notre système d'approche de la maladie France.
Tout à fait.
Voilà. Des troubles psychiques.
Ok.
Et puis, en deuxième partie, Didier, oui. Tu as un thème plus léger pour nous et oui. Plus poétique.
Aussi, oui.
Tu vas tout nous dire sur l'ikebana.
Oui, tout à fait. Alors, d'abord, on va s'attaquer à ce grand sujet.
Oui, c'est un grand sujet.
Oui. Pour nous aider un peu à comprendre, Corinne, les différences, explique-nous en préambule, comme toujours, notre conception de la psychiatrie en France, d'abord.
Alors, en résumé, je dirais que la psychiatrie française oui. se situe à la croisée de la médecine et de la philosophie et de la politique, Didier.
Ah.
Elle s'est construite au fil du temps à travers une réflexion constante sur la folie, la responsabilité, la liberté et la place du sujet dans la société. Alors, le sujet, c'est le terme psy, pour parler des personnes. Oui. Dans la société, c'est l'opposition à l'objet. Le sujet, et soit en fait une réflexion sur la norme et la déviance. En fait, on se pose cette question-là depuis très longtemps en France.
D'accord.
Avant le XVIIIe siècle, la folie était vue comme un phénomène lié à une punition divine.
Forcément.
Une possession démoniaque, ou la présence de ce qu'on appelait un vice. Et à cette époque, l'accompagnement des personnes dites folles reposait surtout sur l'Église, la famille et, je dirais, les autorités policières.
D'accord.
Alors, les soins étaient spirituels, comme les prières, les exorcismes, où on enfermait les gens dans les hospices ou les prisons. C'était quand même assez rudimentaire comme traitement. Et la folie était alors vue, aujourd'hui on ne dit plus ça, était alors vue avant tout comme un problème d'ordre public plutôt qu'un problème de santé. Alors, au XVIIIe siècle, il y aura donc le début d'une approche médicale et plus humaniste, avec la création des asiles, même si ça semble paradoxal.
Oui.
C'était quand même une spécialisation de la prise en charge. Puis viendra la psychanalyse, la critique de l'enfermement dans les années 60, ce qui ouvrira la voie à la politique de secteur qui visait, je le rappelle, et c'est toujours le cas, à intégrer les soins dans la communauté.
D'accord.
C'est beau quand même.
Oui. Alors, la conception du patient atteint de troubles psychiatriques a donc beaucoup évolué, en fait. Qu'en est-il aujourd'hui ?
En France, oui. Alors, chez nous, le patient atteint de troubles psychiques est considéré comme une personne malade, que l'on doit soigner, aider, accompagner, et non comme un déviant. Je dis ça parce que tout le monde n'a pas cette vision-là dans
on
le monde.
On est bien d'accord.
Il est reconnu comme un sujet de droit, le patient, dont la dignité, l'autonomie et le consentement aux soins doivent être respectés. Très important, le consentement aux soins.
Ouais.
Et la prise en charge vise le soin, l'accompagnement, l'insertion sociale en limitant l'hospitalisation au maximum,
d'accord.
avec la volonté d'associer le patient à son projet de soins, peu importe sa pathologie, ça c'est aussi important, en associant si besoin médicaments et psychothérapie.
D'accord.
Donc pour simplifier, la France, la conception du soin psychiatrique est profondément influencée par notre contexte culturel et nos valeurs humanistes. Et tout cela explique les différences avec la vision asiatique.
Justement, Corinne, quelle est l'histoire de la psychiatrie en Asie?
Alors ça commence bien, je dirais.
Ouais.
Elle s'est développée à partir d'un socle culturel commun bâti sur le confucianisme, le bouddhisme et la conception holistique de l'individu venue du taoïsme, l'être et la nature qui ne font qu'un, tout en incluant peu à peu les modèles occidentaux. Alors, je vais commencer par la Chine, qui est peut-être la plus proche de notre conception d'aujourd'hui.
Très bien.
Alors, auparavant, la prise en charge des troubles psychiques en Chine reposait sur la médecine traditionnelle chinoise, qui est basée donc sur une vision holistique de l'être humain, comme quoi l'esprit n'est pas distinct du corps. Donc ça, c'est quand même une vision, je dirais, intéressante.
Oui. Hein.
Et les troubles mentaux étaient interprétés comme des déséquilibres du chi, du yin et du yang.
Bien sûr.
Et les troubles, donc du coup, les causes de la maladie sont vues comme plus plurifactorielles, comme en France.
D'accord.
Et la famille assumait les troubles, bien évidemment. Mm-hmm. Alors la psychiatrie occidentale y sera introduite à la fin du 19e siècle, suivie de son institutionnalisation après 49 avec Mao,
d'accord,
qui en a fait, alors là c'est moins bien, un projet de normalisation sociale où la frontière entre pathologie mentale et déviance politique était parfois bien floue.
J'imagine.
Voilà. On pouvait se retrouver facilement enfermé, en fait.
Tiens donc.
Mais depuis les années 80, la psychiatrie chinoise a adopté des modèles occidentaux de prise en charge, très importants, j'insiste, en y intégrant des principes de la médecine traditionnelle chinoise aussi, enfin, en les conservant, en fait. Hein. Et la prise en charge des patients est malheureusement inégale selon la géographie, un peu comme chez nous,
hein,
et peut-être en pire quand même. Mais la psychiatrie est reconnue comme une spécialité médicale et les troubles mentaux considérés comme des maladies nécessitant des soins spécialisés, mais principalement à l'hôpital, contrairement à nous. Mmh. Et souvent, ce sont des soins de longue durée. Un petit peu comme il y a quelques temps en France, c'était comme ça il n'y a pas si longtemps. Hein. Le rôle de la famille est toujours central pour la surveillance et la prise de décision concernant le patient, et c'est là que ça se gâte, dont le consentement est reconnu en principe.
J'aime bien en principe.
Sauf dans les cas de troubles jugés dangereux. C'est là que
on peut y mettre un peu tout
ce qu'on
veut.
Flou. Voilà.
Oui, c'est ça.
Enfin, la stigmatisation sociale reste forte, ce qui peut retarder l'accès aux soins dédiés.
D'accord. Alors, du coup, passons en Corée. C'est différent, car l'histoire et la culture aussi est différente.
Oui, alors ça se confond un petit peu avec la médecine traditionnelle chinoise au début.
Ouais.
Et il faut dire que c'est très différent depuis la fin du 19e siècle avec, je dirais, la colonisation japonaise. La psychiatrie, enfin les troubles psychiques ont profondément été marqués par la colonisation et puis la guerre de Corée, par la division du pays. C'est des traumatismes collectifs qui ont pour conséquence une culture du silence émotionnel et de la résilience, dans laquelle la souffrance psychique est rarement exprimée, encore beaucoup moins qu'en Chine. Et il y a ce qui est appelé le Wabyung, qui est décrit comme une pathologie liée à l'accumulation de colère réprimé.
D'accord.
Ça n'existe pas en France, ce syndrome.
Okay.
C'est donc un syndrome qui illustre l'impact des normes confucéennes de hiérarchie, de devoir filial et de soumission sur la santé mentale, notamment chez les femmes. Voilà, le Wabyung. Okay. Alors aujourd'hui, la psychiatrie sud-coréenne contemporaine est fortement médicalisée et alignée sur les standards occidentaux, mais demeure confrontée aussi, comme en Chine, à une stigmatisation importante.
Ah.
Mais ça évolue bien, ça évolue bien.
Okay.
Et il y a aussi les conséquences de la forte pression scolaire et professionnelle, qui est importante quand même de souligner, qui contribue, cette pression sociale et scolaire, à un taux élevé de troubles dépressif et de suicide, qui est le taux le plus élevé des pays de l'OCDE.
Oui, d'accord. Alors, excuse-moi Corinne, mais tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le Wabyung, là, j'avoue que c'est un concept que je connais
pas. Oui, la maladie de la colère, qui est donc un syndrome culturel reconnu, coréen, donc, qui associe la colère réprimée, des symptômes somatiques, de la tristesse, de l'anxiété, de la fatigue et un sentiment d'injustice chronique.
Okay.
Alors, traditionnellement, le Wabyung était pris en charge par des rituels chamaniques.
Ah.
Mais aujourd'hui, c'est plutôt médicamenteux et psychothérapie, quand même, hein.
Quand même.
Mais cependant, depuis les années 2000, et ça c'est intéressant, enfin quand je dis intéressant, je dirais original, intéressant au sens où c'est troublant, sous l'influence de l'anthropologie médicale, le regard s'est nuancé avec une reconnaissance du rôle symbolique et communautaire des rituels et son utilité dans certains cas.
D'accord.
Alors, contrairement à l'Occident où chamanisme et psychiatrie sont souvent opposés, ou du moins en conflit, la Corée conserve l'idée que le chamanisme peut offrir un langage pour la souffrance psychique et une reconnaissance sociale. Alors, on en avait déjà parlé, Didier, de ça, quand on avait parlé des chamanes devenues chamanes, parce qu'elles étaient atteintes de la maladie des esprits, qui était un état de souffrance psychique intense, et qui pouvait être interprété comme un appel à devenir chamane. Et là où la psychiatrie occidentale tendrait à diagnostiquer une psychose débutante, bah, la culture chamanique peut donner un sens et un statut social à cette expérience-là.
D'accord.
Voilà, alors dans la pratique, en Corée, bah, certaines familles consultent à la fois un psychiatre et un chaman, ou une chamane principalement, lorsque la psychiatrie échoue, ou inversement.
Bien sûr.
Et un patient peut être soit traité médicalement, tout en participant à des rituels, et on parle alors de pluralisme thérapeutique.
Ok.
Voilà, dans une petite pause musicale, je vous propose d'écouter BTS, qui est connu pour parler ouvertement de santé mentale, ce qui explique leur sujet chez les jeunes. Les jeunes qui sont particulièrement touchés dans le monde et en Asie particulièrement.
D'accord. Pour les amateurs de BTS, je sais que ça
va
être trop court.
Oui, on va se faire tuer, Didier.
Mais non, ils vont avoir bientôt le moment de se rattraper. On en reparlera parce que l'actualité de BTS est très, très brûlante en ce moment.
Brûlante.
Du coup, on aura l'occasion...
C'est l'année du cheval de feu, ne l'oublions
c'est
pas.
C'est ça. On aura l'occasion d'en reparler sur Asialogie, puisque vous êtes toujours avec nous sur Radio Alpa 107.3. Alors, Corinne, donc reprenons.
Oui.
Comment est perçue la maladie psychique au Japon maintenant?
Alors, elle est encore plus stigmatisée qu'en Chine et en Corée.
Oh, je suis pas surpris.
Voilà, car elle fait face à une culture valorisant l'harmonie sociale et la conformité aux normes. Des valeurs confucianistes, bien évidemment. Ce qui influence profondément la perception de la maladie mentale, qui est forcément négative, et aussi de son invisibilisation. Oui, j'ai du mal à dire ce mot-là. Voilà, donc la psychiatrie et les patients souffrant de troubles psychiques sont invisibilisés.
Oui.
Alors, la psychiatrie moderne a émergé durant l'ère Meiji, donc début du XXe siècle, dans un contexte d'occidentalisation rapide, mais elle s'est caractérisée par un modèle psychiatrique centré directement sur l'hospitalisation de longue durée, comme une réponse à la marginalité vue comme une menace sociale.
Ouais.
C'est clairement dit. Enfin, ce qui est dit dans les recherches que j'ai pu faire. Alors, la somatisation, et j'espère avoir été claire aussi d'ailleurs.
Tout à fait.
Alors, la somatisation, c'est le mode d'expression privilégié de la souffrance psychique au Japon, car les plaintes corporelles constituent un langage socialement acceptable. Alors aujourd'hui, les prises en charge sont médicamenteuses et le plus souvent dans le cadre d'une hospitalisation pour contrôler les symptômes. Alors les psychothérapies fondées sur l'introspection et l'expression des émotions peuvent entrer en conflit avec les normes culturelles de retenue. Donc les psychothérapies, il y en a pas beaucoup.
D'accord. Mais alors du coup, on est au Japon. Dis-moi, quel rôle joue la famille?
Eh bien, elle joue un rôle central dans l'accompagnement. Et la famille est le plus souvent décisionnaire dans le parcours de soins.
D'accord.
Et ce qui peut laisser supposer des abus, oui. Ce qui interroge sur le consentement réel des patients, bien évidemment. Alors, on se souvient du phénomène des hikikomori, les personnes jeunes qui se retirent de la vie sociale pendant plusieurs mois, voire des années, du fait de dépression. Mm-hmm. Et l'isolement, qui est renforcé par Internet et les jeux vidéo, c'est une réponse à une souffrance psychologique et sociale. Et donc, ces personnes-là ne sont pas traitées. Les familles des hikikomori n'agissent pas, car elles ne comprennent pas toujours la gravité de la situation. Et il existe aussi le sentiment de honte sociale qui les pousse à cacher le problème plutôt qu'à demander de l'aide.
D'accord.
Et y a des familles qui aimeraient demander de l'aide, mais elles ne savent pas du tout vers qui se tourner.
Oui, je comprends, bien sûr.
C'est quand même très moche, ça.
Oui, c'est sûr. Bon, alors, même si je pense avoir un petit peu la réponse à cette question, est-ce qu'il existe, comme en Corée, des problèmes psychiques d'origine culturelle?
Alors, oui, on avait parlé du kitsuneki, Didier, la possession par l'esprit du renard, qui a servi longtemps à expliquer des comportements jugés étranges, particulièrement chez les femmes. Je dirais ce qu'on appelait l'hystérie chez nous, à une époque. Donc aujourd'hui, ça fait plutôt partie du folklore et ce n'est plus un diagnostic. Mais d'autres syndromes sont apparus, toujours en lien avec la souffrance psychique des femmes, Didier.
D'accord.
Décidément, on est des révélateurs de problèmes. À cause de tout ça, à cause des normes sociales patriarcales très fortes au Japon, je le rappelle. Alors ces phénomènes s'appellent yandere et menera. C'est des phénomènes qui sont nés de la culture populaire des animés, des mangas et des réseaux sociaux. Donc c'est des personnages qui sont fictifs mais qui existent dans la réalité en fait.
D'accord.
Et ça se nourrit mutuellement.
Okay.
Alors qu'est-ce que le yandere? Ça désigne des personnages féminins qui manifestent un amour intense, exclusif, qui bascule progressivement vers la pathologie, la jalousie extrême et parfois la violence liée à la peur de l'abandon. Donc ça, c'est les yandere. Et donc, ce type de comportement est romantisé.
D'accord.
Mais il existe bien dans la vie réelle. Et le menhira, c'est une personne, souvent jeune, qui exprime ouvertement sa souffrance psychique à travers des comportements excessifs, des crises émotionnelles, l'automutilation, des messages alarmants sur les réseaux sociaux.
Oui.
Et contrairement au yandere, le menhira n'est pas violent vers autrui, mais envers lui-même. Ça peut être très spectaculaire. Et incarne une fragilité psychique visible et revendiquée dans un contexte social qui valorise la discrétion.
Et
voyez
bien sûr.
Voilà, et le contrôle de soi, bien évidemment.
Bien évidemment.
Alors, d'un point de vue sociologique, le phénomène menhira peut être interprété comme une réponse aussi à l'isolement social pour se faire reconnaître en tant qu'individu.
Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des équivalences, Corinne, occidentaux au yandere et au menhira dont tu viens nous parler?
Oui, mais du fait des différences culturelles dans le rapport à l'individu, à l'émotion et à la norme, chez nous, les situations ne sont pas romantisées du tout.
D'accord.
Alors, certaines représentations occidentales s'en rapprocheraient, comme la figure de l'amant passionnel à une époque. Carmen, par exemple, la femme fatale, tous ces personnages de films des années 50, où les femmes étaient victimes de normes patriarcales, je le rappelle. Ou plus récemment, celle du partenaire aujourd'hui toxique et possessif.
Oui.
On pourrait comparer ça, les yandere.
Okay.
Alors en Occident, maintenant, la violence amoureuse, c'est quand même considéré comme pathologique, dangereuse ou criminelle. Et c'est quand même tant mieux. Et elle fait quand même l'objet d'une condamnation morale explicite. En général, vraiment.
Bien sûr.
Et elles sont considérées comme des troubles de la personnalité, de l'individu. Concernant le menhira, en Occident, le mal-être des jeunes est reconnu et l'individu est encouragé à consulter et à se reconnaître comme sujet souffrant. Et encouragé aussi à se soigner. C'est quand même la grande différence. On est quand même en alerte de plus en plus, même si c'est insuffisant. On voit les événements qui se passent aujourd'hui dans les lycées. Mais en tout cas, on est quand même sensibilisé beaucoup plus qu'ailleurs. Au Japon, la norme est collective et la souffrance psychique c'est un problème relationnel et social plus qu'un problème personnel.
D'accord.
Voilà Didier.
Oui.
Donc on se fait une pause musicale et une pause musicale que tu nous as choisie Didier.
Oui.
Relaxante un peu pour nous mettre dans l'ambiance de l'Ikebana.
Ça fait pas de mal après tout ça. Thank you.
その時より光は民の胸に宿る榊の枝に手を伸ばせば親の祈りが香り立つ幾地とせこの国に響け八百万の調べ。
Très belle chanson japonaise, Didier, merci.
Oui, oui, c'est une courte respiration, mais c'est asialogique, quoi.
Oui, voilà, tout à fait. Bon, on retrouve un peu de sérénité avec c'est toi, ça. Didier, d'accord. Avec cette musique. Parle-nous de l'ikebana, l'art japonais de faire vivre les fleurs.
Tout à fait, oui. On peut définir l'ikebana par art floral japonais, et c'est bien plus que la simple décoration à base de fleurs. C'est un art traditionnel, majeur, profondément enraciné dans la spiritualité, l'éthique et la vision du monde japonaise. Littéralement, Ike signifie faire vivre et Bana signifie fleur. L'Ikebana n'est donc pas seulement l'art d'arranger des fleurs, mais celui de leur donner une vie nouvelle en les révélant à travers l'espace et le silence.
Alors, quelles sont les origines historiques de l'Ikebana? J'imagine qu'il y a une histoire derrière
tout à fait,
Corinne, cet art majeur.
C'est ça, les origines de l'Ikebana remontent au 7e siècle avec l'introduction
ouais, c'est vieux.
Oui, du bouddhisme au Japon, depuis la Chine et la Corée. Les premières compositions florales apparaissaient sous forme d'offrandes sur les autels bouddhiques. Oui. Ces fleurs n'étaient pas arrangées pour leur beauté décorative, mais pour leur valeur symbolique et spirituelle, incarnant l'impermanence de toute chose. Alors, à partir du 15e siècle, sous l'influence du zen, ces pratiques vont évoluer vers un art autonome. C'est le moine Ikenobo Senkai qui est considéré comme le fondateur de l'ikebana classique, car il en a systématisé les règles esthétiques et philosophiques. Alors, l'école Ikenobo, pardon, toujours active aujourd'hui, est la plus ancienne D'accord. école d'ikebana. Puis, au fil des siècles, l'ikebana va quitter le cadre religieux pour s'intégrer à la culture aristocratique, aux maisons de thé et à la vie quotidienne, devenant un art de vivre à part entière.
Alors, quelles sont les règles, Didier? Quels en sont les fondements esthétiques et philosophiques? Parce que c'est vrai que c'est différent des bouquerons qu'on
sûr.
Faisait à une époque chez nous.
Clairement, l'ikebana repose donc sur une vision du monde, du bouddhisme zen, du shintoïsme ou du confucianisme. Plusieurs principes clés le distinguent radicalement de l'art floral occidental qui recherche la symétrie et l'abondance. L'ikebana, lui, valorise la symétrie, le déséquilibre apparent et l'imperfection.
Comme les jardins.
Voilà, en accord avec l'esthétique du wabi-sabi.
Ça, ah oui,
ceux qui nous écoutent savent déjà de quoi on parle.
Oui.
Qui célèbre la simplicité, l'éphémère et l'inachevé. Alors, comme dans les jardins, le vide est un élément central de la composition, les espaces de vide ne sont pas des absences, mais des espaces de respiration qui donnent du sens et du dynamisme à l'ensemble. Le vide permet à la composition florale d'exister pleinement.
Ouh. Alors
oui,
comment
hein.
c'est pas rien.
Ça envoie.
Ça envoie. Alors comment choisit-on les végétaux d'une composition, Didier?
Alors, ils sont choisis en fonction des saisons,
oui,
bien
important.
Sûr, hein, de leur aspect, de leur symbolique. Les branches tordues, les feuilles fanées, les bourgeons fermés sont tout à fait légitimes là-dedans, car ils racontent le temps qui passe. Dans sa forme classique, l'ikebana fait d'une structure triangulaire avec trois axes principaux. Alors, d'abord le ciel, qui sera
ouais.
la ligne la plus haute pour symboliser l'univers. Le deuxième axe, en ligne intermédiaire, c'est l'homme. Et le dernier, la ligne basse, qui représente la terre.
D'accord.
Alors, ces trois axes expriment l'harmonie entre le cosmos, l'humanité et la nature. Des thèmes au cœur de la pensée japonaise.
Wow, c'est beau. Alors, y a-t-il des styles différents d'ikebana, j'imagine que
ah, oui. Corinne, il y a cinq grands styles d'ikebana. Alors, le rika, le style ancien, très codifié, présent dans les temples et qui représente des paysages naturels stylisés de montagnes, de cascades, de forêts.
Ouh.
Alors, il y a le soka, plus épuré que le rika et qui met en valeur la beauté intrinsèque des plantes avec peu d'éléments. C'est un style très méditatif. Alors, il y a le nageri avec un arrangement plus libre, souvent réalisé dans des vases hauts. Et pour finir, le Shabana, très minimaliste avec des fleurs de saison. Alors, ces compositions sont utilisées pour le tokonoma, l'alcôve traditionnelle japonaise aménagée pour exposer le kakemono, un rouleau calligraphié pour exprimer l'esprit de la maison.
Ah oui, c'est beau ces petits tokonoma.
Ouais. Alors le dernier des styles, c'est le moribana, plus moderne, apparu à la fin du 19e siècle, utilisant des récipients larges et peu profonds qui permettent des compositions plus spectaculaires destinées à être posées sur des meubles bas pour décorer les intérieurs modernes et puis les lieux publics.
Alors, qu'en est-il de l'ikebana aujourd'hui ? On peut apprendre tout ça ?
Oui. Oui. Ah, bien sûr. Aujourd'hui, l'ikebana est pratiqué partout, en fait, dans le monde. Il est enseigné dans des écoles, des associations culturelles. J'en ai connu, en sorte, intégré dans des démarches artistiques contemporaines. Il séduit particulièrement dans notre monde contemporain, car il propose un rapport apaisé au temps, à la nature et à soi-même. C'est un art méditatif qui nous reconnecte avec le naturel.
Alors, est-ce que tu peux nous résumer les différences, Didier, entre l'art floral occidental et l'art floral japonais ?
Faisons
en synthèse.
Ça. Oui, faisons ça pour terminer.
Rapidement.
Alors, il repose tout simplement sur des conceptions profondément différentes de la beauté, de la nature et du rôle de l'humain face au vivant. Là où l'Occident privilégie l'abondance et la symétrie, et l'effet visuel immédiat, l'ikebana propose une esthétique de la retenue, de la contemplation. Dans l'art floral occidental, la nature, elle est souvent domestiquée et maîtrisée, et les fleurs sont sélectionnées pour leur perfection. Le bouquet occidental cherche, lui, à remplir l'espace et à le séduire immédiatement. Il est symétrique autour d'un axe central. Alors, en Occident, l'art floral est principalement décoratif, les fleurs servant à embellir un lieu, à célébrer un événement ou à transmettre un message. Alors la symbolique existe, mais elle est souvent secondaire ou socialement codifiée. Pour conclure, en fait, on dirait que là où l'Occident cherche à embellir le monde, l'ikebana invite à le contempler. Deux traditions bien complémentaires.
Ta conclusion est parfaite, Didier.
Alors.
Bon, c'est fini, Asialogie, oui. Les amis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter le samedi matin à 9h30,
oui.
Le mercredi à 13h, et bien sûr aussi en podcast sur radioalpa.com.
Tout à fait.
Rendez-vous jeudi prochain à 12h,
voilà.
La semaine prochaine. Prenez soin de vous, très vite.
Voilà.
Et toujours sur Radio Alpa 107.3.
Très
salut.
Bien. À la semaine prochaine, bonne semaine à vous. Thank you.